Chapitre 21. La musique l'éveilla, et au début, ça aurait pu être le battement de son propre cœur. Il se rassit à côté d'elle, ramena son blouson sur ses épaules dans la fraîcheur du petit jour, lumière grise tombant de l'embrasure et feu depuis longtemps éteint. Sa vision était envahie d'hiéroglyphes fantômes, de lignes translucides de symboles qui se disposaient sur l'arrière-plan neutre du mur de la casemate. Il contempla le dos de ses mains, y vit de pâles molécules luminescentes rampées sous la peau, coordonnées par le même code inconnaissable. Il éleva la main droite et se hasarda à la bouger. Elle laissa derrière elle une vague traînée rémanente d'images stroboscopiques. Il avait les poils hérissés sur les bras et la nuque. Il était tapi, montrant les dents, goûtant la musique. Le rythme s'atténua, revint, s'atténua. Qu'est-ce qui ne va pas ? Elle s'était assise sur le lit à son tour, écartant d'une main les cheveux de ses yeux. « Chérie, je me sens comme sous une drogue. T'en as ici ?» Elle hocha la tête, lui posa les mains sur les bras. « Linda, qui t'a dit ? Qui t'a dit que j'allais venir ? Qui ?» « Sur la plage, dit-elle, et quelque chose la contraignit à détourner les yeux. Un garçon. » « Je le vois sur la plage, 13 ans peut-être. Il vit ici. » « Et qu'a-t-il dit ?»« Il a dit que tu viendrais. Il a dit que tu ne me haïrais pas. Il a dit qu'on s'entendrait bien. Et il m'a indiqué aussi où se trouvait la mare d'eau de pluie. Il a l'air mexicain. »« Brésilien, rectifia Kays, tandis qu'une nouvelle vague de symboles déferlait sur le mur. Je pense qu'il est de Rio. » Il se leva et entreprit de passer son jean. « Kays, fit-elle la voix tremblante. « Kays, où vas-tu ? » « Je crois que je vais aller trouver ce garçon, » répondit-il, tandis que revenait la musique, toujours la même rythmique simple, régulière, familière, bien qu'il fût incapable de la situer dans sa mémoire. « N'y va pas, Kays. J'ai cru apercevoir quelque chose en arrivant ici. Une ville, au bout de la plage. Mais hier, elle n'y était plus. Tu l'as déjà vue ? » Il remonta sa fermeture éclair, puis s'acharna sur les nœuds impossibles de ses lacets pour finalement jeter les chaussures dans un coin de la pièce. Elle acquiesça, les yeux baissés. « Ouais, je la vois des fois. Tu y es déjà allée, Linda ?» Il passa son blouson. « Non, répondit-elle, mais j'ai essayé. Après mon arrivée ici, et puis je m'ennuyais. En tout cas, je me suis dit, si c'est une ville, peut-être que je pourrais y trouver de la dope. » Elle fit la grimace. « J'étais même pas en manque, j'en voulais, c'est tout. Alors je me suis pris de la bouffe dans un bidon, je l'ai bien imbibé, parce que j'avais pas d'autre récipient pour emporter de l'eau. Et j'ai marché toute la journée, et je pouvais la voir des fois à la ville. Elle avait pas l'air trop loin, mais elle se rapprochait jamais. Et puis voilà qu'elle était tout près, et j'ai pu voir à quoi elle ressemblait. Par moments, ce jour-là, elle m'avait donné l'impression d'être plus ou moins en ruine, ou bien abandonnée. Et à d'autres moments, je croyais y voir des lumières se refléter sur une machine, des voitures ou des trucs comme ça. Sa voix s'éteignit. « Et qu'est-ce que c'était ?»« Ce machin, et elle indiqua du geste le poêle, les murs sombres, l'aube qui découpait l'embrasure. Cet endroit où nous vivons, il devient plus petit, Kays, plus petit, plus on s'en approche. » Un dernier arrêt près du seuil. « Tu as posé la question à ton gamin ?»« Ouais. Il a dit que j'y comprenais rien et que je perdais mon temps. Il disait que c'était comme un événement et que c'était notre horizon. L'horizon événementiel, voilà son expression. » Les mots n'évoquaient rien pour lui. Il quitta la casemate et partit à l'aveuglette, s'éloignant. Il le savait d'une certaine manière de la mer. À présent, les hiéroglyphes défilaient sur le sable, fuyaient sous ses pieds, se retirant devant lui à mesure qu'il avançait. « Et là, fit-il, tout part en morceaux. Je parie que tu t'en rends compte aussi. Qu'est-ce que c'est ? Le kuang ? Le brise-glace chinois qui te creuse un trou dans le cœur ? Peut-être que Dixie, le très plat, c'est pas du gâteau après tout. » Il l'entendit crier son nom. Se retourna et la vit le suivre, sans chercher à le rattraper. La fermeture à glissière cassée de son treillis, battant son ventre bronzé, tissu déchiré, encadrant la toison pubienne. Elle avait l'air d'une fille de ces vieux magazines métro holographiques du finnois qui se serait soudain incarnée, sauf qu'elle était là, c'est triste, humaine, avec le pathétique de sa tenue déchirée, progressant en titubant sur des paquets d'algues argentées par le sel. Et puis, brusquement, ils se retrouvèrent dans les vagues, tous les trois, et les gencives du garçon tranchaient, épaisses et roses vives sur son visage mince et basané. Il portait un short décoloré en lambeaux, jambes trop maigres, face au gris bleu, fuyant du ressac. « Je te connais, » dit Kez, Linda à côté de lui. « Non, » dit le garçon d'une voix aiguë musicale, « tu ne me connais pas. Tu es l'Autria, tu es Rio, tu es celui qui veut arrêter meute d'hiver. Quel est ton nom, ton code de Turing, d'y voir un peu. » Le garçon accomplit une pirouette dans les vagues en riant. Il marcha sur les mains, puis d'un saut sortit de l'eau. Ses yeux étaient ceux de Riviera, mais il n'y avait dedans nulle malice. « Pour invoquer un démon, tu dois apprendre son nom. Les hommes en ont rêvé jadis, mais aujourd'hui, c'est vrai d'une autre manière. Et tu le sais, Kez. Ton boulot est d'apprendre les noms des programmes, les longs noms officiels, ces noms que leurs propriétaires cherchent toujours à dissimuler, les noms véritables. Un code de Turing, ce n'est pas ton nom. « Neuromancien, » dit le garçon, plissant ses grands yeux gris face au soleil levant. « La voie vers le pays des morts. Où tu te trouves en ce moment, mon ami ? Marie-France, madame, c'est elle qui a préparé cette route. Mais son seigneur l'a étouffée avant que j'aie pu lire le livre de ses jours. Neuro, de nerf, ses chemins d'argent, et mancien, comme nécromancien, j'invoque les morts. Mais non, mon ami. » Et le garçon accomplit une petite danse, pieds bruns, s'imprimant sur le sable. « Je suis les morts et leur territoire. » Il rit. Une mouette cria. « Reste. Si ta compagne est un spectre, elle ne le sait pas, et toi non plus. » « Tu es en train de craquer. La glace se brise. » « Non, » fit-il soudain triste, ses fragiles épaules brusquement voûtées. Il frotta ses pieds sur le sable. « C'est plus simple que ça. » Mais le choix reste entre tes mains. » Les yeux gris considéraient Kez avec gravité. Une nouvelle vague de symboles déferla dans son champ de vision, une ligne à la fois. Derrière eux, le garçon se trémoussait, comme vu au travers d'une couche d'air chaud, l'été, au-dessus de l'asphalte. La musique était forte à présent, et Kez pouvait presque en distinguer les paroles. « Kez, chérie, » dit Linda en lui effleurant l'épaule. « Non !» Il retira son blouson et le lui tendit. « Je ne sais pas, » poursuivit-il. « Peut-être que tu es bien ici. » Mais en attendant, le froid tombe. Il tourna pour s'éloigner, et après le septième pas, il avait fermé les yeux, regardant la musique se définir d'elle-même au centre des choses. Certes, il se retourna une seule fois, même s'il n'ouvrit pas les yeux. Il n'en avait pas besoin. Ils étaient là, au bord de la mer, Linda Lee et le garçon maigre qui disait s'appeler Neuromancien. Il voyait son blouson de cuir pendre au bout de la main de la fille au ras de l'écume. Il poursuivit sa marche, guidé par la musique. Le dub de Sion de Malcolm. Il y avait un lieu gris, impression de mince écran ondulant, moire de trame, échelonnement de demi-tons généré par un programme graphique tout simple. Il y avait un long plan fixe sur une vue prise au travers de la ligne, mouette figée au-dessus de l'eau sombre. Il y avait des voix. Il y avait une plaine de miroirs noirs qui bascula, et il devint alors du mercure, une goutte de vif argent, qui dévalait, butait sur les angles d'un labyrinthe invisible, se fragmentait, se fondait à nouveau, glissait encore. « Kez ? Mac ?» La musique. « T'es revenu, Mac ?» La musique fut retirée de ses oreilles. « Combien de temps ? » s'entendit-il demander. Il se rendit compte qu'il avait la bouche très sèche. « 5 minutes, peut-être, trop long. J'avais envie de retirer la prise. Le muet a dit non. Puis l'écran s'est mis à déconner. Alors le muet a dit de te mettre les écouteurs. » Il ouvrit les yeux. Les traits de Maelkoum étaient recouverts de bandes d'hiéroglyphes translucides. « Et de te filer ton médicament, » poursuivit Maelkoum. « 2 dermes. » Il était allongé sur le dos, à même le sol de la bibliothèque, sous l'écran de contrôle. Le sionite l'aida à se relever, mais le mouvement le fit basculer dans une violente bouffée de bêta-phénéthylamine, brûlure des dermes bleus contre son poignet gauche. « Surdose », parvint-il à dire. « Allez, Mac, pression de deux mains robustes sous ses aisselles, pour le soulever comme un enfant. Moi et moi, faut qu'on y aille. »